France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour et bienvenue dans Solae, ce rendez-vous protestant, émission proposée par la Fédération protestante de France et présentée par Jean-Luc Gadreau. Mais avant toute autre chose, joyeux Noël à vous toutes et tous, car aujourd'hui nous célébrons cette parole extraordinaire de l'Évangile, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu ne reste pas lointain, il vient au milieu des nôtres, dans nos fragilités, dans nos espoirs, dans nos nuits. Et c'est François-Xavier Maigre qui ouvrira ce matin cette émission de Noël avec une chronique musicale qui résonne comme une sublime confession de foi. Puis nous accueillerons notre invité, Elisabeth Walbaum, déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle à la Fédération de l'entraide protestante, pour contempler ensemble ce mystère qui bouleverse le monde, la naissance d'un Dieu proche. Bonjour François-Xavier Maigre.
Bonjour Jean-Luc.
C'est la dernière ce matin, la cinquième et dernière chronique en lien avec votre remarquable livre God Bless Rock'n'Roll aux éditions Première Partie. En ce matin de Noël, François-Xavier, vous allez peut-être surprendre quelques auditeurs en exhumant une chanson chrétienne de Bob Dylan. Alors là, il faut nous expliquer, on a peut-être loupé quelque chose. On savait que cet immense songwriter avait une propension à frapper à la porte du paradis, knocking on heaven's door. Mais de là à en faire un chanteur chrétien, racontez-nous.
Et oui, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ignorais jusqu'à une période récente. Mais oui, Bob Dylan a vécu une conversion, un peu une conversion à la Claudel, sur fond de questionnements existentiels, d'épreuves intimes. C'est l'expérience quelque peu oubliée d'un certain Robert Allen Zimmerman, donc alias Bob Dylan. Dylan, bien sûr, on se souvient qu'il est né dans une famille juive du Minnesota. La spiritualité a toujours fait partie de lui. Une spiritualité qu'on pourrait qualifier de libre, pleine de méandres, d'explorations en tout genre. Et c'est en 79, peu avant ses 40 ans, que sort Slow Train Coming, un disque aux airs de manifeste rock born again. Sur la cover du disque, on distingue un ouvrier du chemin de fer muni d'une pioche évoquant la forme d'un crucifix. Et dès les premières pistes, nous voilà fixés. L'ex-icône de la protest song y clame son amour du Christ après s'être entiché d'un pasteur californien et de sa communauté. Certains fans sont médusés. Dylan, diable, pas lui. Un article du San Francisco Chronicle, exhumé il y a quelques années par Le Monde, n'y va pas de main morte. Dylan est-il écrit dans cet article ? Dylan ne pose plus de questions complexes. À la place, il s'est tourné vers la source de vérité la plus prosaïque sur Terre, si pertinemment qualifiée d'opium du peuple par Karl Marx. Voilà notre chanteur préféré, rhabillé pour l'hiver. C'est qu'il n'est jamais là où on l'attend, Bob Dylan. En 1965, souvenez-vous, il choisit d'électrifier ses chansons et il s'attire ce faisant les foudres des puristes de la folk. Mais devenir apôtre du Christ, ça non, personne ne s'y attendait. L'une des chansons de ce disque, I Believe in You, l'annonce sans équivoque. Il me demande comment je me sens et si mon amour est réel et comment je sais que je vais m'en sortir. Et eux, ils me regardent et froncent les sourcils. Ils voudraient me chasser de cette ville. Ils ne veulent pas de moi dans les parages parce que je crois en toi.
Mais cette parenthèse messianique a fait long feu.
Oui, effectivement, elle prend fin en 1981, après quand même trois albums. Des albums de belle facture, quelques mémorables prestations scéniques où le mage folk se transforme en prédicateur habité, désarçonnant ses fans les plus inconditionnels. Cette parenthèse chrétienne, plus grand monde ne s'en souvient aujourd'hui. Il faut dire que le prix Nobel de littérature 2016 a su brouiller les pistes tout au long de sa vie et de sa carrière. Mais il me semble que cet exemple demeure significatif de l'intérêt suscité, 2000 ans après, par la parole d'un fils de charpentier hors du commun, y compris chez des icônes de la contre-culture peu soupçonnables de bigoterie. Anticonformisme, soif de liberté, ouverture à la grâce, les rockers et le Christ ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense. On songe aussi à Bruce Springsteen, Bono, Patti Smith et tant d'autres. L'expérience de Bob Dylan me rappelle aussi celle d'un certain Daniel Dark, chanteur de Taxi Girl, mort en 2013. Après une vie d'excès, lui qui était né d'un père juif et d'une mère catholique avait choisi le protestantisme à la fin des années 90. Il avait fait tatouer la croix du Christ sur son torse et il disait que le christianisme et le rock'n'roll sont les dernières formes d'honnêteté. Dylan, dans « I believe in you », ne dit pas autre chose. « Je crois en toi, même à travers les larmes et les rires. Je crois en toi, même si nous sommes séparés. Je crois en toi, même au petit matin. Oh, quand l'aube s'approche, quand la nuit s'évanouit. Oh, ce sentiment est encore là, dans mon cœur. » Un credo plein de poésie et de panache, et une pépite à redécouvrir.
Et c'est encore un cadeau pour moi que cette sublime chanson de Dylan, cher François-Xavier. J'étais encore il y a quelques semaines à l'applaudir au Palais des Congrès à Paris, Bob Dylan. Un artiste en tout cas pas tout à fait comme les autres. Et puis avec Dieu à ses côtés, pour paraphraser aussi un autre titre. Je crois en toi, I believe in you, Bob Dylan sur France Culture dans Soleil, le rendez-vous protestant de Noël. Ask me how I feel, and if my love is real, and how I know I'll make it through. And they look at me and frown, they like to drive me from this town, they don't want me around, 'cause I believe. They show me to the door. They said don't come back no more, 'cause I don't be like they like me to. And I walk out on my own, a thousand miles from home. But I don't feel alone, 'cause I believe. And the laughter, I believe in you, even though we be apart. I believe in you, even on the morning after. Oh, when the dawn is near at all, when the night is disappearing, oh, this feeling's still here in my heart. Ah, merci beaucoup François-Xavier de nous avoir accompagnés sur ce chemin vers la naissance du Christ, et ce matin avec cette confession de foi de Bob Dylan, I Believe in You, une chanson qui dit quelque chose de très simple finalement et très profond à la fois, croire, continuer de croire même quand tout vacille, même quand rien ne brille encore, croire malgré les doutes, les nuits, les regards qui jugent et qui ne comprennent pas, et c'est peut-être cela, au fond, l'esprit de Noël, une foi têtue, fragile, tenace, qui naît dans une étable et qui change possiblement le monde. En tout cas, François-Xavier, vous connaissez maintenant la maison de la radio, le studio de Solae, et je vous dis donc à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Pour parler justement de cette dimension spirituelle de Noël, de la manière dont elle se vit dans la solidarité et l'engagement, j'ai la joie d'accueillir ce matin Elisabeth Valbaume, déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle à la Fédération de l'entraide protestante. Avec elle, nous allons regarder comment l'espérance de Noël se dit aujourd'hui dans les lieux d'accueil, dans les lieux d'écoute, de soutien, là où l'évangile prend vraiment chair. Bonjour Elisabeth Valbaume.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
Je disais donc que vous étiez déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle à la Fédération de l'entraide protestante, la FEP, comme on dit plus communément. Je précise avec un S à spirituel, c'est-à-dire que l'animation et la réflexion sont d'ordre spirituel, n'est-ce pas ? C'est pas l'animation d'un côté et puis la réflexion spirituelle de l'autre.
Non, tout va ensemble.
Et c'est important, je pense, justement. Présentez-nous dans les grandes lignes peut-être la FEP pour les auditeurs qui découvriraient ce matin.
Alors la FEP, c'est une grande fédération d'acteurs de solidarité protestante, donc des acteurs qui sont tous investis en action sociale. Ça fait plus de 370 associations, mais ça représente en tout à peu près 1000 établissements, 32 000 salariés quand même, 19 000 bénévoles. Ouais. Je ne résiste pas à vous donner ces chiffres parce qu'ils sont parlants. Ça représente 1 million de personnes accompagnées chaque année et 2,7 milliards d'euros de poids économique.
Alors la FEP agit dans un cadre laïque et non lucratif, mais elle demeure profondément inspirée par une vision protestante de l'humain. Comment cet ancrage protestant se vit-il au quotidien? Parce que c'est là aussi que vous intervenez, vous, plus particulièrement.
Alors cet ancrage, il se vit de manière complètement différente, qu'on soit une petite association d'entraide uniquement gérée par des bénévoles et rattachée à une paroisse, ou une très grosse fondation.
On a même Armée des, du Salut.
Voilà, on a même des hôpitaux protestants en France, une dizaine, avec des milliers de salariés. Forcément, l'ancrage ou l'enracinement protestant, on préfère dire enracinement parce que c'est plus vivant. En tout cas, ça permet du vivant, alors que l'ancrage pourrait retenir au fond.
Un peu pesant.
Mais cet ancrage donc se vit, ou cet enracinement se vit de manière différente, avec des associations qui ont un fondement historique protestant, avec des figures très connues dans le protestantisme qui ont créé ces associations-là. Et puis, aujourd'hui, peut-être que cet enracinement se délite un petit peu. Et puis, on a aussi beaucoup d'associations qui ont la foi chevillée au corps et qui sont créées pour annoncer l'Évangile. Donc, moi, mon travail, il est à la jonction entre ces associations qui se sont peut-être un petit peu éloignées, ces associations qui sont peut-être un petit peu trop dans le témoignage. Et c'est pour ça qu'on distingue pas du tout entre animation et réflexion. Ça va ensemble, et bien sûr, ça va aussi avec les questions de laïcité, de respect de la laïcité, et de comment on vit aujourd'hui notre protestantisme dans l'action sociale, dans ce monde qui est le nôtre.
J'imagine que la fête de Noël est un moment important, peut-être parfois aussi compliqué dans ces lieux de difficulté, de souffrance, fragilité, ces lieux d'accueil. Comment ça se passe ?
Bien sûr, ces moments de fête, quand on en est exclu, sont pas faciles à vivre pour la plupart des personnes que l'on accompagne dans les associations de la fédération. Chaque association propose des dîners, des repas le soir de Noël.
Essayer de faire du lien.
Voilà, pour faire du lien. Il y a énormément de bénévoles qui s'investissent le soir de Noël et le matin de Noël. Hein, ce matin même encore, il y a des personnes qui font des maraudes dans les rues, des maraudes donc pour apporter un peu de réconfort en matériel ou en nourriture, voilà, pour ces personnes qui sont en difficulté, en situation de vulnérabilité. Mais la FEP, ce ne sont pas que des associations qui sont aux côtés des personnes à la rue. Il y a aussi énormément, on a par exemple 80 EHPAD protestants, donc bien sûr que dans les EHPAD, il y a aussi des cultes de Noël, des visites d'aumônerie, on a aussi des maisons d'enfants à caractère social, une cinquantaine dans notre réseau, où là aussi se vivent les fêtes plus ou moins facilement.
C'est une vraie diversité finalement qui est proposée là dans ces associations membres de la FEP.
Oui, on aime bien dire que nos associations, les associations membres de notre réseau, elles proposent des actions pour tous les âges de la vie. Oui. Donc de l'enfance jeunesse en passant par l'âge adulte et les précarités, les personnes handicapées, les personnes âgées, et puis bien sûr on a une grosse action aussi pour les personnes exilées.
Pour vous plus intimement, Elisabeth, nous sommes le 25, jour de Noël. Que représente cette fête ? Est-ce que vous avez, par exemple, un souvenir particulier qui vous a marqué ou qui vous marque encore ?
Oui. Alors, quand j'y pense, Noël, pour moi, ce serait d'abord des émotions. Alors, il y aurait l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. La voix profonde et tonitruante de mon grand-père qui chantait « Au peuple fidèle ». Les bougies et puis
famille protestante, j'imagine.
oui, ça se devine. Les bougies et puis une orange piquée de clous de girofle pour l'odeur. Pour la vue, ce serait le sapin, une jolie crèche, des santons, peut-être de la neige aussi certains Noël. Pour le goût, alors là, ce serait les 13 desserts provençaux chez mon amie Françoise pendant des années où nous allions réveillonner.
Une vraie tradition, ça.
Oui, j'ai des souvenirs de tradition en fait que j'essaye de faire vivre encore aujourd'hui à mes enfants.
C'est ça la force des traditions, finalement, de permettre aussi de transmettre quelque chose, de se souvenir. De
la continuité de la tradition qui peut se revivre encore et toujours et qui, j'espère, se vivra demain à nouveau.
Des traditions vivantes. Et les autres sens, il en restait ?
Alors, il en manquait un. Il manquait le toucher.
Le toucher,
bien sûr, c'est les embrassades.
Oui. le jour de Noël quand même, voilà. Tout particulièrement. Bon, bah, ça donne envie tout ça. Ce matin, vous allez prolonger cet entretien avec notre rendez-vous avec la parole de Noël. C'est l'un des textes qui raconte justement la naissance du Sauveur qui s'est imposé à vous, d'une certaine façon. Celui de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les 12 premiers versets. Alors, on va les écouter, lus par David Teinturier, puis on vous retrouve derrière pour une forme de méditation à la fois poétique et pleine de vie pour vivre pleinement ce Noël ce matin avec tous les auditeurs et auditrices de France Culture.
Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Elisabeth Valbaum, quelle histoire tout de même que cette naissance de Jésus.
Et oui, Jean-Luc, il y a des récits de Noël qu'on connaît par cœur, ou du moins qu'on croit connaître par cœur. Chaque année, nous les entendons à nouveau. Mmh. J'ai choisi ce matin celui de l'Évangile de Matthieu parce que j'aime bien cette alternance de concret et de mystère que nous donne son récit. Un récit qui, en fait, année après année, continue de me surprendre. Un peu comme si quelque chose d'impossible se glissait à travers les mots.
Alors vous allez donc, j'imagine, nous parler de cette alternance que vous percevez entre concret et mystère.
Oui, parce que je crois que cette alternance est un encouragement, une ouverture qui nous permet ce matin encore, et malgré le mal et la souffrance, de nous souhaiter un joyeux Noël. Alors d'abord, nous avons des mages venus d'Orient qui arrivent à Jérusalem et cherchent un roi des Juifs qui vient de naître pour l'adorer. Les mages, l'Orient, un roi, une étoile, l'adoration. Enfant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire absolument pas logique ? Des mages ? Des sorciers ? Et pourquoi parmi les santons de la crèche de ma grand-mère, ils sont trois et s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar ? Étrange. Ils ont suivi une étoile, traversé le désert. Ça aussi, c'est bizarre. Et puis voilà, ils trouvent le petit enfant et sa maman Marie. Ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe à un bébé. Et puis, ils sont aussi à la fin divinement avertis en songe. Avec tous ces détails dignes d'une fiction, on est en pleine magie de Noël. Et dans le même temps, il y a cette alternance du concret, du tangible. Un voyage, une rencontre avec un roi apeuré, la joie de trouver le petit enfant et sa mère, les cadeaux matériels.
Oui, il y a quelque chose autour de ces cadeaux, Elisabeth, non ?
Ce matin, c'est Noël, je relis avec vous ce récit que je crois connaître par cœur. J'entends les papiers cadeaux qui se déchirent, les exclamations de surprise, de joie. Nous les entendons, je crois, Jean-Luc.
Oui, moi aussi.
J'entends aussi les questions, les inquiétudes, les doutes. Nos cadeaux cette année, ils sont réussis ou ratés ? Nous avons fait des cadeaux royaux, or, encens, myrrhe, dont un bébé ne saurait que faire ? Des cadeaux symboliques dont la signification nous dépasse ? Avons-nous reçu des trésors inestimables comme celui que Dieu nous a fait ? Et oui, à Noël, Dieu a pris le risque de nous faire un présent. C'est un autre mystère, un enfant. Dieu qui donne un enfant. Non pas un guerrier, non pas un chef politique, un enfant. Un enfant fragile, étranger aussi, sans défense. Et ça, ça ne cesse de m'étonner. Dieu nous fait, à nous les hommes, un cadeau vulnérable dont il faut prendre soin.
Eh bien voilà encore l'irrationnel, le mystérieux dont vous parliez.
Et pourtant, tout de suite, simultanément, face à ce petit enfant, il y a Hérode. Hérode, le roi qui a peur. Matthieu dit « Quand Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » La peur de perdre son pouvoir, la peur que le monde change. Hérode convoque les spécialistes de la loi, il interroge, il calcule. Puis il appelle les mages en secret, il leur dit « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir pour que j'aille moi aussi l'adorer. » La peur et le mensonge. Le pouvoir a peur de la fragilité. Les puissants ont peur des enfants, et c'est toujours vrai aujourd'hui. En 2025, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU soulignait que la France ne protège pas les enfants migrants de la même manière que les enfants français. Des enfants, fragiles, poussés sur les routes, étrangers, exilés. Et pourtant, ils font peur, ils nous font peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont que des enfants vulnérables qui nous rappellent que nous devrions nous engager. Accueillir avec joie, donner, partager, prendre soin.
Et là, j'entends le lien possible avec votre expérience professionnelle, on pourrait dire comme on le fait à la Fédération de l'entraide protestante.
Oui, comme le font des milliers de personnes dans notre pays qui savent qu'elles peuvent être des rois mages, elles aussi. Mais j'aimerais bien vous raconter une histoire, parce que Noël, c'est aussi l'occasion d'entendre de belles histoires. Chaque soir, je passe devant un tout jeune homme, presque un enfant lui aussi. Il ne demande rien, il est simplement là, adossé contre le mur de la station de métro. On échange un signe de tête. Puis un sourire. Un jour, enfin, un « bonsoir ». Son prénom, je l'ai appris plus tard, Édouard. Pendant des mois, quelques mots, de minuscules conversations. Et puis un soir, il n'y a pas très longtemps, Édouard m'a dit « Est-ce que je peux vous donner mon numéro de téléphone ?» J'ai eu un mouvement de recul. Méfiance, peur de l'inconnu, peur d'être envahi, peur de donner. Hérode, en moi, tentation du mensonge. Envie de savoir pourquoi il me demande mon numéro. Va-t-il me menacer? Est-ce que je prends un risque? Il voit ma gêne, Édouard. Alors il précise un peu gêné lui aussi. J'aimerais juste, si vous êtes d'accord, que vous me souhaitiez un joyeux Noël le matin de Noël. Joyeux Noël, c'est tout. Un cadeau qui ne coûte rien, une demande inattendue qui m'a bouleversée.
Alors serait-ce ça un cadeau?
Un cadeau, c'est parfois quelque chose que j'attends, un véritable casse-tête. Un zeste de culpabilité devant la logique financière, l'inévitable estimation de la valeur pécuniaire, la surconsommation. Dans notre monde obsédé par la valeur marchande, le prix semble dire l'importance de l'amour. Recevoir un cadeau peut créer une obligation. Un cadeau offert qu'il faudra rendre. Un cadeau, c'est parfois une chose qui m'encombre, dont je ne voulais pas. Un cadeau, il faut le reconnaître, c'est souvent tristement convenu, attendu, raté. Quelque chose que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas demandé. Mais là, Édouard me rappelle qu'offrir ou recevoir un cadeau, ça peut être une surprise qui fait plaisir tout simplement, une attention qui montre que quelqu'un pense à moi, pour qui, tout simplement, j'existe. Une petite étincelle de bonheur, une émotion qui déconcerte, une lumière chaleureuse, intime et fortuite, éternelle aussi. Un sourire qui soudain dit merci, tu comptes pour moi. La diaconie, le service, commence souvent par un regard, par une demande prononcée doucement, murmuré dans le froid de l'hiver. Avant le geste concret du cadeau, il y a une alternance de risques, de découvertes, de questions, de doutes, de joie. Il y a du mystère, de l'irrationnel. Ce cadeau, il sera raté, réussi? Suivre une étoile, entrer dans un autre pays, trouver l'enfant, lui offrir des cadeaux étranges? Comme nos mages de l'évangile de Matthieu, nous aussi, lorsque nous offrons un cadeau, nous vivons ces risques, ces découvertes, nous expérimentons la joie, le mystère, l'irrationnel.
Alors Elisabeth Valbaum, ce serait donc quoi le cadeau réussi?
Peut-être celui qu'on prépare depuis longtemps, comme les mages, venant de leur Orient lointain, portant leur or, leur encens et leur myrrhe. Peut-être celui qu'on offre en réponse à un désir fragile formulé par une bouche tremblante. Souhaite-moi juste joyeux Noël. Aujourd'hui, au milieu des paquets risqués que nous offrons et que nous recevons, nous nous souvenons du cadeau que Dieu a pris le soin le risque, lui aussi, de nous donner. Jésus, un présent, attendu et inattendu à la fois. Mystère, Jésus, Messie annoncé par les prophètes, reconnu par les mages venus d'Orient, une étoile que l'on suit. Concret, Jésus, nouveau-né vulnérable dans une crèche, fils de Dieu venu habiter parmi les hommes, cadeau réussi, raté.
Entre mystère et concret.
Entre la lumière de l'étoile et le bruit du monde. Dans nos sociétés où le religieux revient par effraction, où le débat politique s'empare des symboles spirituels, Noël résiste. Noël nous déplace, parce qu'il nous met face à l'incompréhensible. Dieu se fait enfant. L'incarnation, c'est cela. Dieu choisit notre fragilité. Et si la foi était précisément cette intelligence du cœur qui ose l'incompréhensible? Des mages qui offrent des matières inertes à un enfant. Dieu Tout-Puissant qui offre son Fils. Je crois que le véritable cadeau de Noël, ce n'est pas l'or, ni l'encens, ni la myrrhe. Le véritable cadeau, c'est la présence, celle d'un Dieu qui se donne, celle d'un enfant qu'on accueille, celle d'un inconnu qu'on regarde comme un frère, un fils. Noël célèbre des valeurs universelles, la paix, la générosité, la lumière, la joie d'être ensemble. Souhaiter joyeux Noël, c'est souhaiter un moment de bonheur, de chaleur et de partage. Alors ce matin, à qui allez-vous souhaiter joyeux Noël? À vos proches? À quelqu'un qui ne vous a pas parlé depuis longtemps? À quelqu'un qui attend peut-être ce mot sans oser le demander? Quand ils aperçoivent l'étoile, les mages sont remplis d'une très grande joie. Ils entrent, ils voient l'enfant, ils se prosternent, ils donnent leur trésor. Divinement avertis en songe, ils repartent par un autre chemin. C'est cela Noël. Entrer, voir, adorer, donner, changer de route. Et si le cadeau réussi, c'était simplement un cœur disposé à accueillir un autre chemin? Je nous souhaite à nous tous de savoir être, parfois, modestement, des rois mages. Je nous souhaite beaucoup d'Édouards sur nos routes. Je nous souhaite d'oser entreprendre des quêtes, d'aller à la rencontre, parce que cela nous permet d'expérimenter de manière irrationnelle et mystérieuse, ou tout à fait concrète, une très grande joie. Que ce Noël soit, pour chacun de nous, surprise, présence et joie donnée. Joyeux Noël. Amen.
Merci Elisabeth Valbaum. Amen pour ce regard éclairé et profondément humain. Et que chacun, chacune puisse repartir avec cette certitude simple. La paix commence là où nous choisissons d'aimer. Alors à nouveau, je vous souhaite à vous Elisabeth, à vous François-Xavier et à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin, je vous souhaite un joyeux Noël. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et Bruno Mourlan à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, de 10h à 11h dans Présence protestante, c'est le culte de Noël en direct et en Eurovision depuis le temple de Jussy à Genève. On se retrouve, alors pour ma part, dimanche à 8h30 pour la dernière émission de Solae en 2025, où je recevrai le pasteur Christian Bacuet, président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Mais sur France Culture, à 10h, vous retrouvez la messe de Noël. Joyeux Noël!
autres.